J'aimerais commencer en vous disant que c'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot ce matin. Et là, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout en train de m'entraîner à qui veut gagner des millions, même si j'aimerais beaucoup y participer, pouvoir gagner un million. Mais c'est simplement qu'au chapitre 31 du livre de Job, Job prononce ses dernières paroles, ses derniers mots dans le cadre de son dernier discours. Job, si vous avez lu ce livre, est un homme qui souffre alors qu'il n'a strictement rien fait pour mériter ça. Je répète, Job est un homme qui souffre alors qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Un homme qui a tout perdu, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses biens matériels, qui a perdu sa santé, alors que c'est un homme juste aux yeux de Dieu. Un homme qui clame son innocence, il n'a rien fait pour mériter ça. C'est ce qu'il clamera des chapitres 4 à 27 dans le cadre de son dialogue avec ses amis. C'est un homme qui se sent accablé, abandonné par Dieu. C'est ce qu'il dit notamment au chapitre 19. C'est un homme qui aimerait parler à Dieu et qui lui demande des explications. Regardez si vous avez l'occasion au chapitre 23 ce que dit Job. Chapitre 23, verset 3. Une parole très touchante. « Si seulement, dit Job, si seulement je savais où trouver Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, autrement dit, si seulement je pouvais le trouver, si seulement je pouvais lui parler. » Et puis regardez ce qu'il dit au chapitre 31, le chapitre qui va précéder les versets, les chapitres auxquels nous allons nous intéresser. Chapitre 31, versets 35 à 40. Si seulement quelqu'un m'écoutait, voilà mon dernier mot. Que le Tout-Puissant me réponde. Quant à la plainte écrite par mon adversaire, je la mettrai sur mon épaule. Je la porterai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de ma conduite dans le détail. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si mon terrain crie contre moi et que ses sillons versent une larme, si j'ai mangé son produit sans le payer et que j'ai fait le désespoir de ses propriétaires qui lui poussent des ronces au lieu du blé et de la mauvaise herbe au lieu de l'orge. Vous voyez combien dans la fin de son intervention, Job désire de tout son cœur que Dieu lui parle. Il n'attend qu'une chose avant même d'être guéri, d'être restauré, c'est que Dieu lui parle. Personnellement, dans le cadre d'une relation sincère, authentique, vraie, honnête avec lui. Mais Dieu ne lui répond pas. Pas pour l'instant en tout cas. Et en attendant la réponse de Dieu qui interviendra un peu plus tard, je vous invite à revenir dans les prochaines semaines pour assister à la réponse de Dieu. C'est un nouveau personnage qui prend la parole, Elihu, un personnage vraiment énigmatique, qui un peu comme le chapitre 28 arrive, comme on dit en français, comme un cheveu sur la soupe. Vous connaissez cette expression. Son intervention est assez abrupte dans le livre. Et les commentateurs bibliques sont très partagés au sujet d'Elihu. Alors que penser d'Elihu? C'est vraiment ce à quoi j'aimerais que nous nous intéressions ce matin. Que penser premièrement de la présence des chapitres dans lesquels Elihu intervient? Les chapitres 32 à 37. Certains estiment en fait que ces chapitres ne font pas du tout partie de l'œuvre originale. Pas du tout. Et qu'ils sont totalement inutiles. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne font que retarder la réponse de Dieu qui interviendra dans les chapitres suivants. D'autres pensent au contraire que dans ces chapitres, Elihu a vraiment une fonction narrative, un rôle très précis et que par conséquent, il joue un rôle important dans le livre. D'accord? Et que penser maintenant du contenu de ces chapitres 32 à 37? Eh bien encore, certains estiment qu'Elihu manque de compassion, qu'il ne fait que répéter ce que les amis de Job disent. Et les amis de Job, en substance, disent que si Job souffre, c'est parce qu'il a péché. Principe de rétribution pure et dure. Si Job souffre, c'est qu'il a péché. C'est aussi simple que ça. Voilà la raison pour laquelle Job souffre. Parce qu'il a péché. Et certains estiment qu'Elihu ne fait que répéter les mêmes choses que Job et que les amis de Job et qu'il n'apporte strictement rien au débat. D'autres pensent au contraire, les commentateurs sont vraiment partagés, hein, qu'Elihu apporte vraiment une contribution profonde et très originale dans ce livre, une contribution à ne pas négliger. Alors que penser d'Elihu? Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez à la fin de ce message. Et d'ailleurs, je serais tout à fait curieux de savoir si vous avez déjà entendu un message sur Elihu, tant ces chapitres sont énigmatiques et parfois difficiles à comprendre. Mais avant de découvrir ce que dit Elihu, je vous propose de faire connaissance avec lui et d'évaluer la validité de ses propos. Et ce qui aide bien avec Elihu, c'est qu'il met vraiment à rude épreuve notre capacité de discernement. Il met vraiment à rude épreuve notre capacité de discernement. Qui est Eliou? Regardez les versets, les 5 premiers versets du chapitre 32. Eliou 32, 1 à 5. Ces trois hommes, il s'agit des amis de Job qui n'ont plus rien à dire, qui sont à court d'arguments, cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se considéraient comme justes. Alors Eliou, ou Eliou, fils de Barakel, originaire de Buz et membre du clan de Ram, se mit en colère. Il se mit en colère contre Job parce qu'il se prétendait juste devant Dieu. Et il se mit en colère parce que ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et condamnaient ainsi Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Eliou avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Lorsqu'il vit que les trois hommes n'avaient plus rien à dire, il se mit en colère. Première chose que l'on apprend sur Eliou, c'est que tout simplement c'est un homme en colère. Un homme en colère contre Job parce qu'il prétend être plus juste devant Dieu. En fait, comment dire, Job n'a pas vraiment dit ça. Il faut vraiment rétablir les choses. Job n'a pas vraiment dit ça, mais Job a quand même un peu poussé Mémé dans les orties. Excusez-moi de cette expression, mais Job, au fil des chapitres, a commencé à parler de manière véhémente, virulente contre Dieu. Il ne l'a pas peut-être accusé directement d'injustice, mais il a quand même remis en question, d'une certaine manière, sa façon de gérer le monde. Et en faisant cela, il se considère peut-être plus juste que Dieu. Et c'est exactement cela qu'Eliou reproche à Job, vous comprenez ? De se prétendre plus juste que Dieu, en remettant en question précisément la justice de Dieu. Et puis il est en colère, vous l'avez remarqué, au verset 2, 3 et 5, contre les amis de Job. Très en colère même. Parce que leur incapacité à répondre à Job a en quelque sorte compromis la justice de Dieu que Job a précisément remise en question. Et Eliou dit aux amis de Job, vous n'avez pas pu répondre à Job. Vous avez compromis en quelque sorte sa justice. Je suis en colère contre vous. Et puis regardez les versets 11 à 22, ce que nous apprenons aussi sur Eliou, assez brièvement. Voici ce qu'il dit. « J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai prêté l'oreille à vos raisonnements jusqu'à ce que vous ayez fait le tour de la question. Je vous ai accordé toute mon attention et je constate qu'aucun de vous ne l'a convaincu. Pas un de vous n'a répondu à ses propos. Ne dites pas cependant, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre et nous un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi, au sud lui répondrai-je tout autrement que vous. Ils sont effrayés, ils ne répondent plus, les mots leur manquent. J'ai attendu qu'ils aient fini leur discours, puisqu'ils s'arrêtent et ne savent que répliquer. À mon tour, je vais répondre. Moi aussi, je vais exprimer mon opinion. En effet, je suis rempli de paroles. Mon esprit me presse. À l'intérieur de moi, c'est comme du vin sous pression, comme des outres neuves prêtes à éclater. Je dois parler pour me soulager. Je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. Je ne ferai preuve d'aucun favoritisme. Je ne flatterai personne. De fait, je ne sais pas flatter. Mon créateur m'enleverait bien vite. La deuxième chose que nous apprenons sur Eliou, c'est que c'est un homme pressé. Un peu comme dans la chanson de Noir Désir, il y a quelques années, un homme pressé. Eliou a presque besoin de parler pour respirer. Il va éclater sinon. Il a besoin de parler pour respirer. Il n'en peut plus. Il a vraiment hâte d'exposer sa solution au problème de Job qui souffre et qui ne comprend pas pourquoi il souffre. Et c'est peut-être une question que vous vous êtes posée dans votre vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'ai-je donc bien fait pour mériter ça? Si seulement je pouvais savoir quelle est la raison pour laquelle je souffre. Il faut se mettre à la place de Job, il en bave. Il en bave, il a vraiment envie de savoir. Il a vraiment envie que Dieu lui parle. Et Eliou sait pourquoi Job souffre. Eliou sait pourquoi Job souffre. Et il va exposer sa solution en trois propositions principales. Et ces trois propositions, vous les avez au dos de vos bulletins, d'accord? Pour vous aider à suivre, peut-être à prendre quelques notes. La première solution... Et en fait, la raison principale pour laquelle Job souffre, selon Eliou, elle est très simple. C'est que Dieu nous discipline par la souffrance. Dieu nous discipline par la souffrance. Regardez ce que dit Eliou, chapitre 33, des versets 14 à 24. C'est très intéressant ce qu'il dit. Regardez bien. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Alors il prend en dégoût la nourriture. Même les aliments les plus désirables, sa chair dépérit à vue d'œil, ses os qu'on ne voyait pas transparaissaient. Son âme s'approche de la tombe et sa vie de messager de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur, ne serait-ce qu'un sur les mille qui annonce à l'homme le chemin à suivre, Dieu lui fait grâce et dit « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. » Vous voyez ce que dit Eliud en substance dans ces versets, c'est que Dieu est en train de discipliner Job par la souffrance. Voilà la solution d'Eliud au problème de Job. Dieu parle aux hommes de différentes manières. Et c'est vrai, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux, le premier chapitre, dans le premier verset, l'Épître aux Hébreux dit que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé aux hommes et aux prophètes de différentes manières, c'est tout à fait exact. Dieu a même parlé par un âne, dans le Livre des Nombres. Mais que dans ces temps qui sont les derniers, et dans les temps derniers ont été inaugurés par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a parlé de manière suprême par son Fils, par le Seigneur Jésus. Mais c'est vrai que sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait de différentes manières. Et l'une de ces manières n'est autre que la souffrance dont il se sert pour corriger les hommes, pour les discipliner. Voilà la raison pour laquelle Job souffre, parce que Dieu veut le discipliner. Pour Eliud, la souffrance n'est pas du tout un châtiment, une punition, un jugement de Dieu, contrairement à ce que les amis de Job pensaient, parce que vous vous rappelez, pour les amis de Job, si Job souffre, c'est parce qu'il a péché, c'est une correction. Pour Eliud, ce n'est pas du tout le cas. C'est un moyen dont Dieu peut se servir pour nous avertir du danger qui consiste à faire le mal, pour nous en détourner, pour nous corriger, pour nous discipliner. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette solution? Dieu nous discipline, parfois, par la souffrance. D'un côté, j'ai envie de dire que cette solution est bonne. Nous l'avons lu en Hébreux 12, chapitre 12, versets 7 à 11. Dieu nous discipline par la souffrance, c'est la marque de son amour pour Père. D'un côté, cette solution est bonne. Le problème, c'est que Eliud ne donne pas cette réponse à la bonne personne. Cette réponse est bonne. Le problème, c'est qu'Eliud ne la donne pas à la bonne personne. Pourquoi? Parce que Job n'a rien fait pour mériter ça, du propre aveu de Dieu. Dieu fera remarquer à Satan, dans le prologue du livre de Job, « As-tu remarqué l'intégrité de mon serviteur Job ?» Non pas à une, mais à deux reprises. Job n'a rien fait pour mériter ça. C'est un homme juste, intègre et droit aux yeux de Dieu. Ses souffrances ne sont en aucun cas la conséquence de la discipline de Dieu. C'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que le texte dit. Ce n'est pas du tout ce que le prologue de Job dit. De notre côté, j'aimerais aussi vous dire qu'Eliud fait preuve d'une certaine originalité. Dieu nous discipline par la souffrance. Mais ce n'est pas vraiment le cas et j'aimerais vraiment faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Regardez ce que dit Eliphaz, l'un des amis de Job, au chapitre 5. Des versets, juste au verset 17. Job chapitre 5, c'est la première intervention du premier ami de Job. Voici. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Rien de nouveau sur le soleil, j'ai envie de dire, comme l'Ecclésiaste. Eliphaz a déjà dit ça. Alors Eliud ne fait peut-être pas preuve d'une très grande originalité, c'est vrai, mais dans ces versets, il a quand même le mérite. Contrairement aux amis de Job, de ne pas invoquer une loi impersonnelle, le principe de rétribution qui s'applique de manière immédiate et mécanique dans la vie présente. Il a le mérite de ne pas invoquer un principe, une loi impersonnelle, un peu comme le karma dans les religions orientales, la relation de cause à effet quelque part, hein, qui se manifeste sur la terre, mais il invoque un Dieu personnel. Et ça c'est une grande originalité, un Dieu personnel, qui utilise parfois la souffrance, non pas de manière punitive, pas du tout, mais préventive, pour nous discipliner. C'est exactement ce que dit le texte de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, vous vous rappelez, des chapitre 12, versets 1 à 13, de la même manière que les souffrances de Jésus n'ont pas été vaines, celles des croyants font partie de la discipline de Dieu qui peut les utiliser pour les encourager à mener une vie juste vécue dans la paix. Vous vous rappelez, c'est le passage qu'on a lu ensemble tout à l'heure. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 13. La souffrance que nous pouvons endurer dans nos vies n'est pas nécessairement le signe du jugement de Dieu. Pas du tout. C'est parfois le contraire. C'est parfois la marque de son amour de Père. C'est pas rassurant ça? Quand ce que nous souffrons dans la vie, c'est peut-être la marque de son amour de Père qui prend soin de nous. Je ne sais pas si vous connaissez C.S. Lewis. C.S. Lewis est un auteur chrétien britannique. Très influent, qui est décédé aujourd'hui, qui a écrit beaucoup de livres pour enfants, notamment les Chroniques de Narnia, c'est de C.S. Lewis. Les Fondements du Christianisme, c'est de C.S. Lewis. Et Le Problème de la Souffrance, de C.S. Lewis. Et regardez ce qu'écrit C.S. Lewis dans ce livre, traduit en français, Le problème de la souffrance. L'esprit humain n'est pas prêt à commencer à abandonner son autonomie au moment où tout se passe bien. L'erreur et le péché ont tous les deux cette qualité. Plus ils sont profonds, plus ils sont cachés, ignorés par leurs victimes. Ce sont des mots masqués, cachés. La douleur, elle, est démasquée. Un mal évident. Tout homme sait que quelque chose ne va pas lorsqu'il souffre. Nous sommes capables de nous reposer tranquillement dans notre péché. Mais la douleur, écoutez bien, nous oblige à y prêter attention. Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Est-ce que c'est votre expérience ? Je pourrais dire que c'est la mienne. Si vous avez déjà été confronté à la souffrance dans votre vie, à votre propre souffrance, ou à la souffrance d'autrui, vous avez peut-être eu l'impression que Dieu a utilisé cette souffrance pour vous parler, pour vous réveiller, comme un mégaphone, pour vous discipliner. Et dans ces moments, la question à se poser n'est peut-être pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette souffrance ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Premièrement donc, voilà la solution d'Eliou au problème de Job. Dieu nous discipline par la souffrance. Deuxièmement, comme vous pouvez le constater au dos de vos bulletins, de manière un peu plus brève, Dieu nous dirige par sa justice. Dieu nous dirige par sa justice. Dans ces versets, Eliou qui estime que Job a, comment dire, vous rappelez un peu, poussé mémé dans les orties, hein, qui a été un peu loin avec Dieu, qui estime qu'il a remis en question la justice de Dieu, et c'est vrai que Job, vraiment, est un peu sur le fil du rasoir. En fait, Eliou va reprendre ses propos pour les réfuter de manière assez virulente. Regardez ce qu'il dit, chapitre 34, versets 10 à 20. Job, chapitre 34, versets 10 à 20. Écoutez-moi donc, homme de bon sens. Dieu n'a rien à voir avec la méchanceté. Le Tout-Puissant n'a rien à voir avec l'injustice. Il paie à l'homme le salaire de ses actes. Il traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal. Le Tout-Puissant ne pose pas le droit. Qui l'a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié le monde entier à ses soins ? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature expirerait d'un seul coup et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Celui qui déteste le droit pourrait-il vraiment régner ? Condamnerais-tu le juste, le puissant ? Dit-on au roi, vous êtes des vauriens et au prince, vous êtes des crapules. Lui, il ne favorise pas les chefs et ne privilégie pas le riche face aux pauvres, parce que tous sont l'œuvre de ses mains. En un instant, il meurt. Au milieu de la nuit, un peuple est ébranlé et disparaît. Le tyran est écarté sans aucune intervention humaine. Est-ce que vous voyez dans ces versets combien Eliou est en train de dire que Dieu dirige le monde, dirige nos vies, tout simplement par sa justice de manière infaillible et complètement impartiale. Sa justice est garantie par son omniscience. Regardez le verset 21, juste le verset suivant. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Il n'a pas besoin d'observer bien longtemps les hommes pour les juger. Il les connaît par cœur, verset 23. Il n'a pas besoin de faire une enquête à la NCIS. J'ai appris à aimer cette série policière dans le cadre de mes études. Il n'a pas besoin de faire une enquête policière pour remettre tout le monde à sa place, verset 24. Il entend les cris de plus humble, il sait ces choses. Verset 28. Dieu est juste. Ce n'est pas parce qu'il n'intervient pas toujours dans la vie présente qu'il n'est pas juste. Il garde parfois le silence, c'est vrai. On a parfois l'impression qu'il se cache, mais il finira par intervenir un jour ou l'autre. Dieu est juste. Le jour de son retour, il reviendra pour juger le monde et pour rétablir l'ordre des choses. Dieu nous dirige par sa justice. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Eliou dans ces versets ? Alors on pourrait, c'est vrai, dire qu'Eliou rappelle une vérité biblique absolument fondamentale. Certains commentateurs estiment qu'il s'agit d'une platitude. Dieu est juste. S'il y a une chose qui est vraie et sue aux yeux de tous les croyants, c'est que Dieu est juste, d'accord ? On peut aussi lui reprocher de développer un peu la même théologie que les amis de Job. La théologie des amis de Job, c'est ni plus ni moins le principe de rétribution. Je fais ça, il m'arrive ça, d'accord ? C'est vrai. On pourrait aussi lui reprocher d'avoir la dent dure avec Job, au chapitre 34 notamment. Hein. et au verset 7 à 9, c'est vrai. Et on pourrait aussi lui reprocher de dire que Dieu ne dirige pas seulement le monde avec justice, mais aussi avec beaucoup d'amour. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, dans ces versets, je suis le premier à reconnaître que Eliou n'apporte peut-être pas la contribution la plus originale et la plus pertinente à son discours. C'est vrai. Troisièmement, et c'est le dernier point, après avoir vu que Dieu nous discipline par la souffrance, que Dieu nous dirige par sa justice, je vous propose de voir qu'Eliou est en train de dire que Dieu nous dépasse par sa grandeur. Eliou, c'est un peu le monsieur météo du livre de Job, le Louis Baudin, le Sébastien Follin, le Catherine Laborde, Fabien Amiac sur la 3, bref, c'est pas grave. Dans ces versets, il fait contempler à Job la grandeur de Dieu. La grandeur, l'immense grandeur de Dieu visible dans la création et notamment dans les phénomènes météo mystérieux qu'il maîtrise parfaitement. Les éclairs, par exemple. J'ai regardé, il n'y a pas très longtemps, une émission sur les éclairs sur la 5e. J'avais pas grand-chose à faire, il faut dire. C'est incroyable, un éclair. Les scientifiques n'ont pas percé tous les mystères d'un éclair. La naissance d'un éclair, c'est un phénomène mystérieux et météorologique incroyable. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un éclair peut mesurer jusqu'à 20 km de long? Hallucinant. Est-ce que vous savez à combien peut aller un éclair? 40 000 km par seconde. Pensez à ça la prochaine fois qu'il tombe un orage sur Lyon et que vous avez vu sur les éclairs. Qu'est-ce que Dieu fait de ces éclairs? Eh bien, chapitre 36, verset 32, il les cache dans ses mains. Il est beaucoup plus grand qu'un éclair. Le tonnerre, il s'en sert pour s'annoncer, chapitre 36, verset 33. La neige, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la neige, 6 branches, ok, une constitution identique, aucun flocon de neige n'est similaire, n'est semblable, malgré une apparente similitude. C'est Dieu qui les fait tomber, chapitre 37, verset 6. La glace, un peu comme Superman, je ne me rappelle plus dans quel épisode, si vous êtes fan de Superman, vous pourrez me le dire à la fin du culte, mais il l'a produit par son souffle. Et la fige à la surface de l'eau, chapitre 37, verset 10. Les nuages dont les formes sont en perpétuelle évolution, il les charge d'humidité, il les disperse traversés d'éclairs. Chapitre 37, verset 11. C'est lui qui fait varier leur évolution selon ses directives. C'est lui qui les fait tenir en équilibre. Chapitre 37, verset 16. Le ciel dont les couleurs sont parfois majestueuses. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà laissé impressionner par la majesté du ciel, les couleurs majestueuses que le ciel peut prendre. Eh bien, c'est Dieu qui le déploie, aussi solide qu'un miroir à métal fondu. Chapitre 37, verset 18. Dieu nous dépasse, mais nous dépasse complètement par sa grandeur. Une grandeur visible, mais incompréhensible. Elle dépasse ce que nous pouvons connaître. Chapitre 36, verset 26. Qui comprendra le déploiement des nuages, les fracas de sa tente? Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Chapitre 37, verset 5. La seule attitude qui convient à son égard, c'est laquelle? Eh bien, la réponse est dans le texte. Regardez le chapitre 36 et le verset 24. C'est la célébration de ses œuvres. Est-ce que vous célébrez Dieu pour ses œuvres? Je ne parle pas de célébrer la création, mais de célébrer le Créateur auquel renvoie la création. La contemplation de ses merveilles, chapitre 34, 37, verset 14. Est-ce que vous contemplez les merveilles de Dieu? Est-ce que vous prenez le temps? Est-ce que je prends le temps de contempler les merveilles de Dieu? L'automne arrive, la majestuosité des couleurs. La seule attitude qui convient, c'est une crainte respectueuse. Regardez ce qui est dit, chapitre 37, verset 24. Est-ce que vous craignez Dieu? Non pas comme un père fouettard, mais comme un père plein de bonté, une crainte respectueuse qu'on lui doit en tant que créateur. Dieu nous dépasse par sa grandeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est juste? D'un côté, on pourrait vraiment reprocher à Eliou de ne pas vraiment répondre au problème de Job. À mon avis, Job sait parfaitement que Dieu est grand. Il célébrera lui-même la grandeur de ses œuvres, d'ailleurs. C'est vrai. On pourrait aussi lui reprocher de rappeler une banalité, une platitude. Dieu est grand. Là encore, s'il y a une vérité théologique fondamentale, c'est celle-ci. Dieu est grand. Tout le monde est d'accord. Mais dans ces versets, quand même, je me dis, dans ces versets, Eliou apporte peut-être la contribution la plus originale, la plus mature, la plus sensible, la plus profonde de son intervention. Dieu nous dépasse par sa grandeur. Quelle est votre vision de Dieu? Est-ce que Dieu est grand dans vos pensées? Très grand. À quoi ressemble le Dieu que vous adorez? Écoutez ce que saint Augustin a répondu à cette question. À quoi ressemble le Dieu que j'adore? Sa réponse est en trois phrases. Je le cite. Tu es le plus caché de nous, et pourtant le plus présent parmi nous. Le plus beau, et pourtant le plus fort. Celui qui dure pour toujours. Et pourtant, nous ne pouvons te comprendre. Alors je conclus. La réponse d'Élihu à Job, premièrement, Dieu nous discipline par la souffrance. Deuxièmement, Dieu nous dirige par sa justice. Troisièmement, Dieu nous dépasse par sa grandeur. Que pensez-vous de la présence de ces chapitres dans le livre de Job? Qu'est-ce que vous en pensez? Chapitres 32 à 37, qu'est-ce qu'ils font là? D'un côté, vous allez me dire qu'Élihu est un jeune homme arrogant, une sorte de monsieur Jussitou qui semble avoir tout compris, qui manque de compassion, c'est pas faux, qui rappelle parfois des banalités, c'est pas faux, et dont la théologie se rapproche vraiment très dangereusement de celle des amis de Job. Encore une fois, c'est pas faux, il faut être honnête. Et c'est un homme qui, en plus, est totalement ignoré par Dieu dans l'épilogue du livre. On va le lire dans un instant. Pas un mot sur Élihu à la fin du livre de Job. Mais d'un autre côté, Job, Élihu, pardon, est quand même l'auteur de quatre discours. Tenez-vous bien, quatre discours ininterrompus. Six chapitres. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans le livre de Job. C'est quelqu'un qui ne se contente pas toujours de répéter ce que les amis de Job disent. Vous vous rappelez, il n'invoque pas simplement une loi impersonnelle, le karma, mais un Dieu personnel qui nous discipline parfois par la souffrance. Et pour certains, c'était quand même un homme aussi auquel Dieu ne reproche strictement rien dans l'épilogue, contrairement aux amis de Job. Regardez l'épilogue, très intéressant. Job, chapitre 42, juste quelques versets, trois versets, des versets 7 à 9. C'est la fin du livre de Job, et regardez ce que Dieu pense de tout ça. C'est quand même pas mal d'avoir l'avis de Dieu sur la question, non? Job, chapitre 42, versets 7 à 9. Après avoir adressé ses paroles à Job, Dieu vient de parler à Job dans les versets chapitre 38 à 42, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, c'est le premier ami de Job qui prend pour tout le monde, d'accord? Ami de Job. Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez trouver mon serviteur Job et offrez un holocauste pour vous. Mon serviteur Job priera pour vous et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement, comme l'a fait mon serviteur Job. Est-ce que vous avez remarqué? Pas un traître mot. Pas un traître mot de Dieu à propos de Job. Comment interpréter ce silence de Dieu dans l'épilogue? Comment l'interpréter? Est-ce que c'est le signe de sa désapprobation? Ou bien au contraire, de son approbation? Que pensez maintenant de la présence de ces chapitres? Dans lesquels Élihu intervient. Quel est leur rôle? Vous vous rappelez, certains pensent en fait que ces chapitres retardent inutilement la réponse de Dieu. Mais je pense qu'en fait, ils jouent un rôle fondamental dans le livre. Non pas un, mais deux rôles fondamentaux, deux fonctions narratives très importantes dans le cadre de l'unité du livre. Premièrement, Élihu joue le rôle d'arbitre. D'arbitre, je pense. En résumant la position des amis de Job, c'est ce qu'il fait, en résumant la position aussi de Job, hein, en répétant ce qu'il dit, parfois en trahissant sa pensée, mais quand même en récapitulant tout le livre, ce qui n'est pas inutile, et en jouant le rôle de juge, d'arbitre, Job donne sa solution quelque part au problème de Job. Et certains pensent que Élihu se fait Dieu, se prend pour Dieu. Et c'est très intéressant parce que, est-ce que vous savez ce que veut dire Élihu? Ça veut dire « mon Dieu, c'est lui ». Éli, Jésus sur la croix dit « Éli, Éli, lama sabachthani », « mon Dieu » en hébreu, suffixe personnel, « lui, Dieu, mon Dieu, c'est lui ». Certains pensent qu'Élihu est en fait très arrogant parce qu'il pense qu'il apporte sa propre solution, qu'il prend la place de Dieu quelque part, dans le livre de Job. Mais quand même, on pourrait dire qu'il joue le rôle d'arbitre en récapitulant la position de tout le monde et en donnant sa propre solution. Et la deuxième fonction que joue Élihu, pour finir, et qui pour moi est très pertinente et qui a toute sa place dans le livre de Job, c'est celle de précurseur. Précurseur. Élihu joue le rôle de précurseur en assurant une transition vraiment idéale avec les chapitres suivants. Loin de retarder inutilement la réponse de Dieu, Élihu en fait nous y prépare. la nature théocentrique. Théocentrique, ça veut dire que, en fait, tout est centré sur Dieu. Dieu nous discipline par la souffrance, Dieu nous dirige par sa justice, Dieu nous dépasse par sa grandeur. Dieu est au centre de toutes ces interventions. La nature théocentrique de ces interventions préfigure, met en valeur la réponse de Dieu que nous allons entendre plus tard. Comme dans la vie et dans la souffrance, il faut parfois savoir faire preuve de patience. Prions. Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que des fois dans ta souveraineté, tu nous disciplines par la souffrance. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à chercher à comprendre ce que tu veux nous dire dans le cadre d'une éventuelle souffrance. Nous prions aussi que tu nous aides à parler à nos amis qui souffrent et à attirer leur attention sur ce Dieu personnel qui nous discipline parfois pour nous attirer à lui. Dieu, nous confessons aussi que tu es un Dieu juste et que tu diriges le monde non seulement avec justice mais aussi avec beaucoup d'amour. Enfin, nous confessons que tu es un Dieu qui nous dépasse par ta grandeur, que la création renvoie à un Créateur qui nous dépasse, un Dieu grand. Combien serait confortant de savoir que nous vivons dans un monde dont le Créateur est tout-puissant, beaucoup plus grand que nous, qui comprend ce que nous ne pouvons pas comprendre, qui maîtrise ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Aide-nous, nos temps suppliants, à te faire confiance en toutes circonstances. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci.